La façade exprime déjà toute la force baroque qu'on va retrouver à l'intérieur. Avec d'abord au rez-de-chaussée, vous voyez ce bossage en table, la séparation en trois parties par des colonnes et des pilastres, et surtout au-dessus du grand portail, cette immense gloire avec des petits angelots qui encadrent la décoration de Saint-Jean-Baptiste, toujours portée par de petits anges. On retrouve d'ailleurs cette même décoration au-dessus des fenêtres de l'étage. Et puis, un fronton cintré, orné de pots à feu, de part et d'autre. C'est vraiment l'annonce de ce que l'on va découvrir à l'intérieur. C'est de la pierre de Tavel, c'est une pierre assez blonde, qui est dorée au soleil, qui est assez belle. Les pénitents noirs de la Miséricorde sont nés d'un démembrement des pénitents noirs florentins. Au XVIe siècle, donc, se crée une nouvelle communauté sous la houlette de Pompée Catilina, qui était le colonel de l'infanterie pontificale. Et cette nouvelle société s'installe dans la petite chapelle de l'hôpital de Notre-Dame de Fenouillé, va agrandir cette chapelle d'une sacristie, d'une antichapelle, au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, mais c'est véritablement en 1739, sous l'impulsion de François Mann, que va être réalisé le décor surprenant que l'on peut découvrir en pénétrant dans cette chapelle. Il a fait appel à un confrère qui était originaire, un Parisien d'origine, Thomas Lainé, architecte également d'une petite merveille, le petit théâtre qui se trouve place Crillon, qui a donc dressé les plans de la façade, des décors muraux et des décors de plafond. Il est mort avant de pouvoir réaliser son œuvre, c'est donc Jean-Baptiste Franck qui a pris le relais et qui a terminé cet ouvrage fantastique que l'on peut découvrir lorsque la chapelle est ouverte ou en demandant à l'Office du tourisme éventuellement de l'ouvrir.
Je trouve que cette chapelle est très intéressante parce qu'elle dénote l'état d'esprit de l'Avignon baroque, une forme de piété qui est très ostentatoire, hein, et avec des lieux qui sont très mondains, parce que nous sommes ici dans l'antichapelle, c'est-à-dire l'accès, hein, où on se prépare à finalement assister au culte. Cette antichapelle est décorée, beaucoup de gens l'ont comparée à une salle de théâtre en fait. Vous avez des œuvres d'art avec des tableaux, entre autres, de Nicolas Mignard, qui est certainement le plus connu de tous les peintres qui sont exposés ici. Vous avez ce décor qui enchâsse ces œuvres, décor de faux marbre, de boiseries dorées, et au plafond, ce qui est très amusant, des personnages de la Commedia dell'arte. Donc il y a quand même une grande référence au théâtre, pour une confrérie qui était quand même, qui avait voué sa mission à l'assistance des prisonniers et des condamnés à mort en particulier, nous y reviendrons, ainsi que plus tard des personnes handicapées psychiques. Cette chapelle, Notre-Dame de Fenouillé, va devenir cette chapelle des pénitents noirs et accolée à la prison, elle permet aux condamnés, aux prisonniers d'assister à la messe. Alors après l'antichapelle, une porte s'ouvre sur la chapelle elle-même et avec une fenêtre qui donne sur l'autel. Ainsi, du côté prison, on peut assister à la messe par cette sorte de fenêtre grillagée. Attention, on prend quand même ses précautions.
Alors une petite précision sur un motif décoratif qui orne l'imposte de la porte qui donne sur la chapelle. On y retrouve la décoration de Saint-Jean-Baptiste parce que les pénitents noirs de la Miséricorde, comme les Florentins, avaient choisi pour saint patron Jean-Baptiste, les uns, les premiers, fêtaient la naissance du saint, donc ceux de la Miséricorde, eux, fêter la décoration de Saint-Jean-Baptiste. Et cette représentation, ce symbole, on va le retrouver dans la chapelle de façon importante, sur la façade et également cousu sur le froc noir que portaient les pénitents.
Pouvons avancer peut-être dans la chapelle, on continue ?
Allez. C'est incroyable, c'est sublime.
Voilà.
La suite.
On peut dire qu'à la sobriété du décor, la sobriété entre guillemets du décor de l'antichapelle, la chapelle offre une qualité, disons, beaucoup plus importante de recherche, mais de recherche quelquefois un peu lourde. Le baroque là s'exprime totalement avec ses boiseries, enchâssant des toiles, rehaussées de dorures, de motifs décoratifs multiples, des rinceaux, des feuillages, et surtout, en soubassement, on retrouve l'emblème des pénitents, toujours la décoration de Saint-Jean-Baptiste, et intercalé les armes de certains des confrères. Alors ce qui est quand même le clou de la, on peut dire, de la décoration, ce vers quoi le regard se porte, c'est, vous le voyez, l'autel. L'autel est le plus important, le maître-autel, et surtout le tabernacle. Cette introduction du tabernacle est importante parce qu'elle date du Concile de Trente. Après le Concile de Trente, on met l'accent sur l'Eucharistie. On met l'accent sur l'Eucharistie parce qu'on n'est pas d'accord avec les réformés sur l'interprétation de la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est ici que se passe l'acte premier, donc tout le décorum va se focaliser sur l'autel. Alors l'autel déjà est surélevé, c'est un très bel autel de marbre. Au-dessus, une grande crucifixion due à Mignard, toujours. Vous voyez de grandes cornes d'abondance, cernées de colonnes. Cette crucifixion est surmontée d'un fronton ouvert et au-dessus, on retrouve encore la décoration de Saint-Jean-Baptiste. Figurant une petite coquille avec des rayons, figure un peu Dieu le Père, hein, est une des figurations de Dieu le Père, et au-dessus, on retrouve, plafonnant, la colonne du Saint-Esprit. Donc vous voyez toute une montée vers les cieux et symbolique à la fois par les diverses représentations. Alors c'est très important dans ce contexte justement de la contre-réforme parce que cet accent dans toutes les églises de cette période-là, cet accent mis sur l'autel est visible et présent.
C'est vrai que la contre-réforme a été très présente à Avignon puisque nous sommes toujours, il ne faut pas l'oublier, jusqu'à la Révolution, territoire pontifical. Et si le palais n'abrite plus les papes, il abrite toujours ses représentants, les vice-légats. Hein, voilà. Alors, il y avait une cérémonie, la cérémonie qu'on appelait la cérémonie de la délivrance chaque année. Le recteur des pénitents noirs allait demander la grâce d'un condamné à mort au vice-légat du pape. Et en principe, cette grâce était accordée systématiquement, sauf pour certains cas précis, les crimes d'empoisonnement, de lèse-majesté, les faux monnayeurs aussi, et ceux qui avaient falsifié des lettres apostoliques. Voilà. Sinon, les autres bénéficiaient de cette grâce. Et toute une cérémonie se déroulait une fois par an autour de cette libération. Une cérémonie et une journée qui devait être quand même difficile pour le condamné à mort, même si ça valait quand même... Ça valait le coup, disons, cette transaction. Alors, ça commençait donc par le dépôt de la demande. Le recteur se rendait au palais des papes et rencontrait le vice-légat. Et le vice-légat a posé sa signature sur l'acte de libération du criminel. À la suite de quoi, précédé de la garde suisse, les pénitents allaient chercher le condamné dans sa cellule au palais des papes. C'est l'aile des familiers, l'aile ouest du palais qui est actuellement en restauration et en échafaudage. C'est cette partie-là qui, au XVIIe siècle, a servi de prison au vice-légat. Donc on va chercher le condamné dans sa prison et il assiste d'abord à une première messe. Ensuite, on le ligote, on le bâillonne, on le saucissonne et on l'emmène en cortège jusque à la chapelle des pénitents noirs. Et sur le seuil, avant l'antichapelle, donc sur le seuil du portail, le recteur des pénitents brise cette chaîne qu'elle emprisonne avec un marteau. Et il va assister à sa première messe d'homme libre. Alors on le couvre d'un habit rouge écarlate. et on lui donne une couronne d'olivier. On assiste tous à cette messe et ensuite tout le cortège des pénitents va le promener en ville et accompagné de fanfares, de fifres, de tambourins, de hautbois. C'est vraiment quelque chose qui tient de la festivité païenne finalement.
C'est un rituel complet.
Voilà, c'est très laïque par certains côtés. Et alors il franchit tout un itinéraire à travers la ville, il passe de la rue Banasterie, il monte au Palais des Papes, ils font tous le tour de la cour du Palais des Papes. Ensuite, ils vont à la cathédrale. De la cathédrale, ils descendent par l'église Sainte-Madeleine, par les fusteries. Enfin, tout un circuit qui les ramène ici. Le condamné peut souffler, c'est un homme libre.
C'est incroyable.
La cérémonie de la délivrance, c'est assez surprenant, c'est très étonnant. Et je vous parlais de cette piété baroque qu'on retrouve dans ce décor dont vous a parlé Malou, de cette architecture très ostentatoire et qui était destinée à séduire, puis séduire, mais aussi avec ses côtés un peu morbides. On voit la tête, la décoration de Saint-Jean. Et puis, il faut imaginer ce cortège de pénitents qui était en cagoule, pénitents noirs, donc ils avaient un sac noir, hein, une espèce de grand vêtement, hein, et ils se promenaient avec cagoulé comme ça. C'était quand même sûrement très... très impressionnant, ouais. Oui, très impressionnant.
On parle de processions funèbres. Ils enterraient leurs pénitents, leurs frères pénitents, et on parle à ce propos de processions extraordinaires avec flambeaux, musique, tédéum, donc vraiment toute un cérémonial exceptionnel, mais qui frappait les foules aussi par quelque part certaines peurs. Il faut les imaginer à la tombée de la nuit. Certaines processions avaient lieu à la tombée de la nuit avec les flambeaux. C'était très très impressionnant pour la foule qui assistait à ce type de représentation, on pourrait presque dire.
Oui, il fallait un peu faire peur du péché, de l'enfer. Il fallait aussi, par certains côtés beaucoup plus séducteurs, la musique religieuse, l'architecture, essayer de ramener les brebis égarées qui s'étaient égarées vers le protestantisme. Hein. Il fallait les ramener au bercail. Donc on utilisait tous les moyens pour séduire.
Oui, tous les arts sont voilà. Au service voilà. De cet objectif. Musique, sculpture, voilà. Architecture, tout est valorisé dans ce but.
C'est une réponse flamboyante finalement à toute la rigueur, la sévérité protestante. C'est un écrivain qui a parlé de l'art baroque et l'a comparé aux spaghettis bolognaises. C'est tout l'art italien qui, bon, nous avons des rapports très très étroits avec l'Italie à cette époque-là, et finalement c'est toute la saveur italienne avec sa cuisine évidemment.
Donc on a ces grillages.
Oui, qui protègent les vitraux aussi, qui permettaient.
Les vitraux qui ont été restitués, enfin des vitraux. Or ces œils de bœuf qui éclairent la chapelle sont assez curieux parce qu'ils sont pris également dans les boiseries. Ils sont mis en valeur, comme les tableaux, par ces boiseries. Et puis au plafond, comme dans l'antichapelle, là, ce sont des camaïeux dorés. C'est plus flamboyant encore, avec une multitude de stucs rehaussés de dorures également. Et au centre, l'apothéose de Saint-Jean-Baptiste. Alors la fameuse grille par laquelle les prisonniers pouvaient écouter la messe se trouve dans le chœur. Le chœur qui est séparé de la nef par un gradin, hein, surélevé, et l'autel est encore surélevé par deux gradins. Voilà donc par où les prisonniers et les condamnés pouvaient écouter l'office.
Et aujourd'hui, cette prison, elle est en train d'être rénovée actuellement, non, c'est ça ?
Absolument.
Oui, c'est ça.
Alors, elle date du 19e siècle, hein, cette prison. Elle a été construite au 19e siècle sur l'emplacement de l'hôpital des aliénés dont s'occupaient les pénitents, qui a disparu totalement parce qu'au moment de la Révolution, tout ce qui concernait les hôpitaux est devenu départemental, était sous la gestion départementale. Donc, l'hôpital des aliénés a été transféré dans un lieu qu'on connaît encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'hôpital psychiatrique de Montfavet, et la prison est donc venue s'installer, a rasé totalement l'hôpital des aliénés, il ne reste rien, et a été construite à ce moment-là.
Et alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Vous ne me l'avez pas dit finalement.
Et oui, nous avons eu une commande d'un éditeur, West France, il y a 4 ans maintenant, 5 ans. Cet éditeur lançait une nouvelle série, Les Guides Secrets. Plusieurs étaient déjà parus, Marseille, Montpellier, et on nous a demandé de faire la même chose pour Avignon. Donc, guide secret signifiait de faire référence à des lieux toujours existants, que l'on puisse voir encore, et des lieux qui sont peut-être méconnus ou peu connus du grand public, hein, et de manière à essayer de faire découvrir d'autres circuits en ville et appâter un peu les gens avec un côté, un aspect peut-être un peu plus accrocheur, un peu plus facile de notre patrimoine. Et puis, facile, on s'est dit, mais pas du tout, on ne va pas céder à la facilité. On va essayer de faire quelque chose d'assez historique, assez sérieux. Et puis, je pense que ce guide secret d'Avignon a connu un grand succès, continue d'ailleurs à bien être vendu. Et nous en sommes ravis parce que c'est un parcours qui nous a permis d'abord de réviser un peu tout ce que notre carrière avait permis, nous avait permis d'acquérir et d'aborder. Et puis, de temps en temps, on se dit qu'il y a des choses qui concernent l'histoire et le patrimoine d'Avignon qu'il faut aller rechercher dans des revues savantes qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Ce n'est pas qu'elles soient illisibles, hein, c'est qu'on ne connaît pas leur existence souvent. Par exemple, il y a le bulletin de la Société des Amis du Palais des Papes, il y a les mémoires de l'Académie de Vaucluse, qui, depuis le début du XXe siècle, diffusent et font la promotion, finalement, de ce riche patrimoine d'Avignon. Et voilà, quand on commence une carrière de guide conférencière, nous avons toutes les deux démarré sur le tas, à la base, eh bien, il faut aller chercher ces informations. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de formation vraiment. C'était du bouche à oreille et du compagnonnage. On se passait une tradition. Puis après, bon, la Caisse des Monuments Historiques à l'époque et nous, correspondantes un peu de guerre de l'État, avons mis en place des formations. Il y avait des formations locales dont nous étions chargés, en connexion avec des régionales et des nationales. Et puis un examen de guide conférencier agréé par le ministère de la Culture, ça fait toujours très chic de le dire, mais c'est une garantie, hein, c'est un label qu'on a tendance à oublier en ce moment, puisque tout le monde, surtout depuis le confinement, je dévie un peu là, mais tant pis, depuis le confinement, n'importe qui s'est un peu institué guide et fait des visites plus ou moins clandestines pour des touristes qui se laissent avoir à la sortie des bus, voilà. Pendant que des guides conférenciers agréés qui ont passé des années à travailler le sujet cherchent du travail et n'en trouvent pas toujours. Ou n'en ont peut-être pas assez. Voilà, donc ce guide, nous, ça nous a permis un peu de militer pour cette diffusion, cette vulgarisation sérieuse, hein, de ce que nous avions acquis pendant toute notre carrière. Voilà. Alors il s'agissait, ça c'était moins simple, hein, d'organiser ce circuit par quartier. Donc il y a un plan d'Avignon à chaque chapitre, avec des thèmes un peu particuliers. Et à chaque fois, il fallait avoir un circuit dans ce quartier. Et le tout devait quand même, pour nous, à notre sens, et on a eu beaucoup de temps à démarrer le projet, il fallait quand même essayer de respecter une certaine chronologie de manière générale d'un chapitre à l'autre, pour éviter de se perdre, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de faire quelque chose par secteur géographique, mais passer du Moyen-Âge à l'Antiquité, puis revenir au XXe siècle et tout, au bout d'un moment, c'est fouillis. Donc le plan était un peu long à mettre au point, mais c'était un bon exercice. Et puis ça nous a permis de collaborer encore, puisque
à nouveau,
Manou m'a appris mon métier, hein, je le lui dois. Et puis Madame Laguiomi est devenue directrice du Palais des Papes. Et moi, j'ai pris la responsabilité du service éducatif, c'est-à-dire tout l'accueil des scolaires à Avignon.
Puis cette chapelle, il faut quand même l'avouer, présente aussi toute la virtuosité des architectes, des décorateurs avignonnais, puisqu'ils étaient la plupart, ou du moins régionaux, des apports des Italiens qui étaient très nombreux. Les hôtels, par exemple, l'hôtel majeur comme les hôtels de l'Antichapelle ont été réalisés par des Italiens installés à Avignon, les frères Mazzetti, qui sont de merveilleux marbriers, qui font un travail exceptionnel du marbre. on a donc, si vous voulez, réuni ici toutes les qualités, tout le savoir-faire du début du XVIIIe siècle avignonnais, avec en même temps un apport important, c'est-à-dire des grandes œuvres de Nicolas Mignard, comme la Crucifixion, comme la Visitation, qui se trouve par exemple de ce côté-ci. C'est vraiment un écrin pour toutes ces œuvres qui méritent la visite. Alors il ne faut pas non plus attirer trop de monde dans ce type de lieu, parce que ce serait néfaste aussi pour le lieu. Il faut toujours bien doser les choses, c'est-à-dire pouvoir montrer les richesses, mais il faut que ça se mérite quelque part aussi. Les dispositions de la chapelle et de l'antichapelle au moment où elle était occupée par les pénitents, vous voyez le long des parois de la nef les stèles des confrères. La chapelle était vide au centre, l'antichapelle également. Il n'y avait pas de mobilier devant. Le seul mobilier se trouvait ici le long de la nef. Bon, c'est un détail, mais...
Et là, il y a 5 caveaux.
Alors les caveaux, les caveaux, on va en parler, c'est vrai. Alors vous voyez, on ne les voit plus trop, effectivement. Sur ce dallage de marbre noir et blanc, bicolore, on retrouve des grandes dalles entourées de marbre rose, cernées de marbre rose. Sous ces dalles ont été enterrés certains des confrères. Et dans l'antichapelle, on retrouve les mêmes dalles où ont pu être enterrés également certains des prisonniers ou des condamnés que l'on ramenait dans l'antichapelle et non pas dans la chapelle, bien évidemment, puisque l'oratoire lui-même était réservé aux pénitents. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des caveaux, quelque part, de grands caveaux, qui doivent encore recéler certainement des restes des personnes qui ont été inhumées dans cette chapelle et dans cette antichapelle.
Et puis cette séparation entre antichapelle et chapelle, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les chapelles conventuelles. Je pense à la Chartreuse, par exemple, où nous avons l'antichapelle qui est réservée aux laïcs ou aux frères, et le père occupe l'espace de la chapelle.
Ici, c'est un peu différent, parce que l'antichapelle était réservée aux assemblées, aux réunions des pénitents. Et la chapelle était vraiment le lieu de l'office.
C'est incroyable, ça regorge de... On ne sait plus où vous donner les yeux.
Il n'y a pas de mots.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de mots.
C'est éblouissant.
Ouais,
Et puis vous noterez qu'il y a énormément de petits angelots, par exemple, ici, qui culminent au-dessus de l'autel, notamment, et du chœur. Il ne faut jamais oublier que les anges, à cette période-là, étaient considérés comme les principaux médiateurs. Et là, on en retrouve des petites têtes d'angelots également en décoration. Ils sont très, très présents à la période baroque, où ils se multiplient à l'infini, parce que ces médiateurs, c'était vraiment la symbolique du médiateur. La sacristie.
Je vais aller piquer celui de ma soeur.
Alors, avec bien évidemment antichapelle, chapelle, sacristie, c'est un plan que l'on retrouve chez tous les pénitents, dans toutes les chapelles de pénitents. Donc après avoir visité l'antichapelle et la chapelle, nous allons voir la sacristie. Là, il y a le... c'est exposé le Saint-Sacrement. Le décor est plus sobre ici, ce sont simplement des boiseries de noyer, rehaussées de sculptures, de petites coquilles tout à fait typiques du XVIIIe siècle, rehaussées de dorures et sommées de pois à feu, d'une grande élégance. Malheureusement, la restauration ici est loin d'être achevée. Une partie des boiseries ont été enlevées et ne sont pas encore de retour. Ici, la voûte est simplement soulignée aussi de dorures et de coquilles et d'entrelacs. Excessivement sobre, mais toujours élégante.
Ah, regardez, ça c'est intéressant.
Un écu de procession. Vous voyez la tête de Saint Jean-Baptiste et au-dessus, planter le cierge pour pouvoir les porter en procession. Ça fait partie des récupérations. Malheureusement, on aurait pu récupérer beaucoup d'autres choses. Un très beau Christ aussi avait été commandé par les pénitents noirs, le Christ de Guillermin qui se trouve au musée Calvé, qui est un très beau Christ d'ivoire, certainement le plus beau de cette période-là. Il est visible au musée Calvé, pas en permanence, malheureusement. Il devrait revenir ici un jour. Vous allez voir où le Christ était déposé.
Et c'est le Christ qu'on nous a offert.
Oui.
Pour remplacer.
Alors voilà où se trouvait le Christ d'ivoire, à l'époque où il était encore dans la chapelle. Vous voyez qu'il avait une merveilleuse niche à l'intérieur de cette sacristie, ornée de dorures, de façon à protéger ce chef-d'œuvre qui était un chef-d'œuvre exceptionnel. Alors il a été remplacé par un Christ qui est de très bonne qualité aussi, il faut bien l'avouer, mais ce n'est pas le Christ de Guillermin. Voilà. Et au musée, ce qui est intéressant, c'est que le Christ de Guillermin, quand le sculpteur a réalisé les bras du Christ, il s'est rendu compte qu'il y avait une veine dans l'ivoire, donc le résultat n'était pas tout à fait à la hauteur de ce qu'il espérait. Donc on a refait une paire de bras pour ce Christ, et la paire de bras donc, qui se trouve sur le Christ, et l'autre est conservée aussi au musée Calvé, est également au musée Calvé.
Quel bras.
Les bras de rechange.
C'est Shiva.
Vous voyez la perfection qu'on désirait atteindre, hein, une veine gênait l'artiste et on recommence le travail.
On pourrait dire peut-être un mot de la décoration de Saint-Jean-Baptiste, parce que les gens ont peut-être oublié, ce qui est quand même un condamné pour une confrérie qui s'occupait des condamnés. C'est un célèbre condamné à mort, hein. Il a été condamné par le roi Hérode. Il était emprisonné puisqu'il était chrétien, et donc chrétien persécuté. Et il avait reproché à Hérode d'avoir divorcé, d'avoir changé de femme. Et donc Hérodiade, l'épouse, cette mégère non apprivoisée, dit à Hérode qu'il fallait couper la tête de Saint-Jean. Et un soir, lors d'un banquet qui représentait dans la chapelle Saint-Jean au Palais des Papes, Hérode dit à sa belle-fille Salomé, « Danse et en échange de ta danse, je te donnerai ce que tu voudras. » Et donc Salomé, sur les conseils de sa mère, qui n'avait pas obtenu encore la mort de Hérode, souffle à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste, la décoration. Donc la fameuse danse des sept voix de Salomé, elle devait être une excellente danseuse.
Et comme on le voit sur le tableau, on lui apporte la tête du saint sur un plat d'argent.
Voilà. Une scène qui avait été tournée, c'était Charlton Heston, non ?
Dans oui.
Un fameux péplum américain. Et à chaque fois, on avait un tableau, c'était pour l'Expo Mignard, je crois.
Oui.
On avait un visage, c'était Charlton Heston.
Oui,
on s'est dit, il avait bien choisi. Le casting avait été bien fait.
On retrouve d'ailleurs un tableau également qui représente Salomé dans la chapelle. Et voilà une petite merveille encore des frères Mazzetti. C'est un lavabo, c'est pour l'ablution des mains du prêtre. Ici, on a la réserve d'eau et donc vous voyez cette grande richesse de marbre polychrome encore à travers cette œuvre de ces célèbres Italiens. Moi, j'ai un petit faible pour lui. Exceptionnel.
Je
le verrai bien dans
ta salle
de bain.
Moi aussi.
Toujours un petit peu pour le matin. C'est
ça. Voilà, mais en conclusion, que dire si ce n'est que cette chapelle est très représentative d'un esprit avignonnais, d'une façon de cultiver la religion et la pratique religieuse dans une forme très mondaine qui ne lui enlève pas la sincérité et la profondeur des sentiments. Mais cette chapelle, vraiment, est un recueil de tout cet état d'esprit de l'époque et qui est fort intéressante, puisque en Provence, le baroque avignonnais a été vraiment un des fleurons de cette veine de l'histoire de l'art et sûrement une des villes les premières à se lancer dans cette nouvelle architecture, cette nouvelle conception des bâtiments. Et on peut retrouver la même chose dans des hôtels particuliers, avec des architectes et des dynasties d'architectes comme le cabinet de la Valfenière et puis après, plus tardivement, les Francs, qui sont toute une dynastie de grands maîtres. Et comme nous sommes en province, on a tendance à ne pas oublier ces grands noms qui sont pour nous aussi importants que des noms qui sont connus plus nationalement.